à tous et à toutes. J'ai le plaisir de recevoir et de vous présenter Fanny Forsberg-Lundell. Fanny, tu es professeure de français à l'Université de Stockholm en Suède. Tes recherches portent sur l'acquisition des langues secondes et la pragmatique interculturelle. Tu as notamment beaucoup travaillé sur le langage préfabriqué, ou en anglais, formulaic language, en particulier dans ta thèse de doctorat. En mai 2023, tu es venue à Fribourg à l'Institut de plurilinguisme pour animer un atelier sur cette thématique. Le langage préfabriqué étant un sujet pertinent pour notre public, je suis heureuse de t'accueillir pour un podcast du CEDILE. Bonjour Fanny.
Bonjour Audrey et merci beaucoup de m'avoir invitée à ce podcast que j'écoute aussi parfois avec beaucoup de plaisir. Donc c'est un grand plaisir d'être chez vous aujourd'hui et c'était aussi un grand plaisir d'être à Fribourg il y a quelques semaines.
Merci beaucoup. Pour commencer, d'un point de vue linguistique, qu'est-ce que le langage préfabriqué et d'un point de vue pratique, quel est son rôle dans la communication?
Merci. Je pense qu'un bon point de départ pour comprendre le phénomène, c'est de retourner un peu en arrière dans le champ de l'acquisition des langues secondes et de prendre le générativisme de Noam Chomsky comme point de départ. Parce que son propos était qu'avec un nombre limité de règles grammaticales, on pourrait créer un nombre infini d'énoncés. Donc, il a insisté beaucoup sur la créativité dans notre capacité langagière. Et pendant la période chomskyenne, la grammaire était au cœur des études en linguistique, en acquisition. Mais avec l'avènement de la linguistique des corpus, on a découvert que dans notre usage de la langue, on n'est pas si créatif que proposait Chomsky. On a trouvé beaucoup de patrons ou patterns en anglais, donc préférés. Il y avait beaucoup de recyclage, donc beaucoup de préfabrication dans notre façon de nous exprimer et pas tant de création, en fait. J'ai moi-même découvert ce phénomène pendant mes études à Paris. J'ai rapidement compris que c'était pas forcément la grammaire ou le vocabulaire qui me posait tant problème dans l'interaction avec les locuteurs natifs, mais c'était plutôt les expressions. Et je me souviens quand ma première copine française me demandait si j'arrivais à y trouver mon compte, toute la communication a été complètement déstabilisée parce que j'ai rien compris. Et j'ai commencé à analyser ce qu'elle m'a dit, j'ai commencé à faire une traduction mot à mot et j'avais l'impression qu'il y avait des expressions comme ça partout dans la conversation quotidienne, qui étaient vraiment des obstacles pour moi en tant qu'apprenante d'une langue seconde. Aussi bien pour ma propre production, parce que j'ai compris souvent dans des conversations quotidiennes, rapides, que là, il aurait fallu avoir dit ça, mais je n'ai pas trouvé l'expression. Mais j'avais aussi, comme dans le cas avec qui trouvait son compte, j'avais aussi du mal moi-même à comprendre et donc à pouvoir répondre à quelque chose d'adéquat. Donc, cette difficulté que j'ai moi-même vécue et que j'ai observée, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Et c'est pour ça que quelques années plus tard, j'ai fait une thèse de doctorat là-dessus. Parce que j'ai voulu comprendre comment cet apprentissage démarre et est-ce que c'est possible vers une fin, s'il y a une fin dans l'apprentissage, de maîtriser ces séquences de la même manière que les locuteurs L1. La fonction de ces séquences, c'est vraiment, je pense que la psycholinguiste Alison Ray, qui est anglaise, elle a fourni un modèle très utile pour comprendre pourquoi on emploie tant de langage préfabriqué et c'est quelque chose qui a à voir avec une sorte d'économie dans nos échanges linguistiques. Une économie de la part du locuteur, c'est plus économe au niveau cognitif de sortir tout un paquet déjà préfabriqué au lieu de faire comme Chomsky le proposait, donc de créer des énoncés en ligne. Lorsqu'on parle, c'est plus exigeant au niveau cognitif. Et en même temps, pour l'interlocuteur, c'est plus facile de comprendre quelque chose de préfabriqué aussi. En tout cas, si on appartient à la même communauté linguistique, on a un accord sur ce qu'une certaine expression signifie. Donc, on décode facilement. Donc, il y a vraiment une économie cognitive pour les deux côtés là-dedans. Et je pense que ça explique bien la prépondérance du phénomène et l'importance aussi pour l'apprenant, pour quelqu'un qui va commencer à utiliser une langue, peut-être même mener une vie dans une autre langue. C'est important d'avoir accès à ces outils, à ces paquets. Là, donc, le modèle de vrai, c'est vraiment, ça illustre bien la fonction. Après, il y a bien évidemment différentes fonctions. Il y a des fonctions qui servent plus à dénominer des choses, comme par exemple le changement climatique. C'est une colocation, ça, c'est quelque chose de figé, mais ça dénomine un phénomène. Mais après, il y a des séquences plus pragmatiques, comme « je vous en prie » ou « c'est ça ». Avec grand plaisir. Donc, il y a différentes fonctions. Et c'est ça ce qui donne aussi beaucoup de catégories différentes rassemblées sous cette étiquette de langage préfabriqué. Donc, j'ai déjà mentionné le terme colocation, c'est-à-dire deux mots qui co-apparaissent souvent ensemble, où il y a une cohésion entre deux mots, comme par exemple, donc j'ai mentionné changement climatique, mais ça peut aussi être prendre une décision, mettre fin à quelque chose. Mais on a aussi donc ces routines pragmatiques que j'ai mentionnées. On a les expressions idiomatiques. Là, on peut avoir y trouver son compte comme un exemple. On a aussi des remplisseurs qui sont plutôt comme des marqueurs discursifs. Donc, quand on parle de langage préfabriqué dans une langue seconde, ce sont des choses assez diverses. Après, c'est aussi différent si on parle en acquisition, si on parle des apprenants débutants ou des apprenants plutôt avancés. Quand on parle des apprenants débutants, on a souvent tendance à référer au fait que les débutants semblent acquérir des séquences plutôt holistiques, souvent, dans les premières étapes d'acquisition. Donc, on peut trouver un « je voudrais », par exemple, un conditionnel, dans une production qui sinon n'a pas de conditionnel, oui, des séquences comme « s'il vous plaît » ou « je m'appelle ». Et là, on parle parfois aussi de langage préfabriqué. Mais c'est un autre phénomène, en tout cas en partie, à ces séquences plutôt idiomatiques que j'ai mentionnées. Et chez les apprenants plus avancés, on a donc tendance à étudier à quel point ces apprenants s'approprient les séquences plutôt idiomatiques de la langue seconde. Donc, c'est deux phénomènes assez divers, mais qui quand même, je dirais, le point commun, c'est que c'est des séquences qui ne sont pas générées à partir des règles grammaticales, mais qui constituent plutôt des entités et qu'on apprend en bloc, qu'on n'apprend pas de manière analytique. Donc, c'est quelque chose qui est lié à la mémoire, à un apprentissage plutôt holistique.
D'accord, merci. Mmh. Voilà, donc ça semble clair que le langage préfabriqué, en tout cas selon les linguistes, est important pour l'acquisition des langues étrangères et langues secondes. Tu nous as donné aussi ton exemple personnel dans lequel on se reconnaît certainement beaucoup d'entre nous. Mmh. Et voilà, justement, tu parles des différents types de langage préfabriqué qu'on apprend peut-être plus tôt au début de l'acquisition et puis plus tard. Donc, que nous dit la recherche plus précisément à ce propos? Comment est-ce qu'on étudie ce phénomène chez les apprenants de langue étrangère?
Chez les apprenants débutants, on s'est souvent posé la question, est-ce que ces séquences qui sont donc, tout d'abord acquises de manière holistique, est-ce que ces séquences sont ensuite décomposées ou analysées? Et est-ce que ça aide au développement des règles grammaticales? Donc ça, c'est quelque chose. Ça c'est une question pour l'apprentissage initial ou précoce, on va dire. Donc, comme j'ai dit, pour les apprenants plus avancés, on s'intéresse plutôt à la maîtrise des colocations, par exemple. Est-ce que c'est possible d'atteindre une maîtrise langue cible des colocations? Et là, je pense que la réponse est assez claire, que c'est difficile. Ça reste un trait tardif. C'est aussi un bon indicateur de la compétence en langue seconde, donc second language proficiency. C'est assez connu et établi maintenant que si on veut tester la compétence à un niveau élevé, mettons un niveau B2, C1, C2, c'est un très bon outil d'utiliser un test de colocation, par exemple, parce qu'on sait que ça corrèle bien avec la compétences générales en langue seconde. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est oui, c'est quelque chose qui se développe tard, c'est un bon indicateur de la compétence. Et pourquoi est-ce que ça se développe tard? C'est parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'input. Pour que ces combinaisons de mots soient vraiment soudées et vraiment stockées dans le cerveau comme entité, il faut avoir été exposé à beaucoup d'input. Et comme nous le savons bien, c'est une des choses qui manque souvent pour les apprenants d'une langue seconde et étrangère encore plus. Et si nous plaçons dans une approche basée sur l'usage, donc ça c'est plutôt mon cadre théorique dans lequel je travaille, on sait que ça demande des heures et des heures et des heures d'exposition pour apprendre ces phénomènes. Et c'est comme ça qu'on explique que c'est un phénomène qui émerge tard, donc dans l'acquisition. Ça, c'était quelque chose que j'avais découvert dans ma thèse de doctorat que vous avez mentionné, que j'avais donc étudié les séquences préfabriquées à partir des niveaux vraiment débutants, des vrais débutants, jusqu'au niveau très avancé. Et là, c'était même des gens qui vivaient depuis un certain temps dans le pays de la langue cible. Dans ce cas-ci, c'était la France. Et c'était uniquement les personnes qui avaient une durée de séjour d'au moins 5 ans, qui avaient une quantité de langage préfabriqué dans la production orale, ici c'était de la production orale, qui ressemblait à la quantité des locuteurs L1. Donc ça demande beaucoup de temps. Je pense que ça demande aussi beaucoup d'interactions authentiques, beaucoup de lectures aussi, donc c'est beaucoup d'input de diverses sortes pour être exposé suffisamment. Et l'automne dernier, j'ai publié une étude où j'ai étudié l'acquisition du suédois comme langue seconde par des francophones pour voir, OK, est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Mais là, l'effet était le même. Et en plus, ce que j'ai pu noter, c'était que parmi donc, les francophones qui apprenaient le suédois, il y avait deux facteurs qui semblent être décisifs pour l'acquisition des colocations. Et c'était l'exposition, l'usage de la langue au quotidien, mais aussi l'aptitude langagière. Donc, c'est vrai que c'est probablement cette combinaison qu'il faut, l'aptitude pour les noter dans l'input, combinée avec une exposition massive, on va dire. Voilà.
Donc, on entend, il faut beaucoup d'input et puis encore de bonnes aptitudes langagières pour apprendre ces séquences, qui sont en partie potentiellement très utiles pour une bonne communication.
Tout à fait.
Alors, je me demande, pour un enseignant de français langue étrangère qui nous écoute, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Comment intégrer ça dans la classe? Tu parles notamment peut-être de l'enseignement, mais aussi de l'évaluation peut-être?
Non, mais c'est une très bonne question, parce que j'imagine qu'on se dit, quand on entend ça, que ah, ok, beaucoup d'input, ça va être difficile. Parce qu'on a quand même des heures limitées. Et c'est vrai que le manque d'input, oui, ça constitue un obstacle. Les différences interlinguistiques constituent peut-être aussi un obstacle, hein, mais ça peut aussi constituer un atout. Je vais y revenir tout de suite. Mais il y a des choses, et donc il y a des choses assez simples qui fonctionnent quand même, parce qu'on a mené des recherches sur les possibilités de faciliter l'apprentissage des séquences préfabriquées dans la salle de classe. Et basé sur l'hypothèse de noticing, on a vu à travers quelques études que la manipulation graphique des séquences préfabriquées, en fait, quelque chose de très simple, hein, de souligner, d'avoir des textes, de souligner les séquences préfabriquées, ça facilite l'apprentissage et ça a été vraiment démontré que donc, un groupe qui est exposé à un texte avec des séquences préfabriquées soulignées, comparé à un groupe qui a été exposé à un texte où ces séquences n'ont pas été soulignées, apprennent plus que le deuxième groupe. Donc, il y a des choses simples à faire. On peut faire des choses aussi liées à la comparaison interlinguistique. Il y a par exemple une étude par Laufer et Girsay qui a montré que la comparaison et la discussion interlinguistique a favorisé l'apprentissage des séquences préfabriquées qui n'étaient pas les mêmes, qui étaient non congruentes. Je pense que la différence qu'on peut constater dans la discussion, ça éveille la conscience des apprenants que, ah, là, il y a quelque chose, il faut faire attention. On a aussi vu que la répétition et l'élaboration sémantico-formelle fonctionnent, c'est-à-dire qu'on discute de la forme et du sens de séquence. Donc, ce que ça donne comme ensemble, c'est qu'il faut, comment dire, il faut les traiter avec attention, soit les souligner, soit travailler avec des traductions ou en tout cas avec une certaine contrastivité. Il faut aussi les discuter et si on le fait, ça favorise l'acquisition. Mais il est clair qu'on ne pourra jamais couvrir un nombre très important de séquences. Il y a, comme je pense l'avoir expliqué, un nombre infini plutôt de séquences préfabriquées, on ne pourra jamais les couvrir. Mais ce qu'on peut faire, je pense que le plus grand apport de l'enseignant dans la salle de classe, c'est de sensibiliser l'apprenant à l'existence de ces séquences, que non, ce n'est pas que les règles grammaticaires ou les règles grammaticales ou le vocabulaire, mais c'est la langue est en fait composée de plein de séquences comme ça. Et c'est comme si on se mettait des lunettes un peu et si on commençait à regarder la langue autrement. Donc je crois que c'est surtout ça qu'on peut faire. Et là, je pense que c'est bien de travailler avec des données authentiques dans différents genres. Par exemple, les extraits de films, les extraits de radio, les YouTubers. On peut travailler ensemble dans la salle de classe et repérer genre les 5 séquences les plus fréquentes dans un extrait limité. Les discuter après, qu'est-ce que ça signifie, comment on dit ça dans votre langue maternelle, par exemple, ou comment est-ce qu'on dit ça en anglais, si on travaille sur le français, par exemple. Donc, pour être dans cette élaboration sémantico-formelle et dans la contrastivité. Je pense que comme on veut encourager aussi, si on parle d'un contexte langue étrangère, comme le contexte dans lequel moi je me situe maintenant en Suède avec le français, on veut encourager l'exposition extramurale au français. Et donc là, on peut donner comme devoir, OK, pour la semaine prochaine, vous allez regarder dans une série sur Netflix, vous allez repérer des séquences préfabriquées, peut-être aussi les 5 ou les 10 les plus fréquentes. Donc, on peut faire ça aussi. Parce que je pense que dans certains, bon, c'est pas quelque chose que j'ai étudié, mais dans certains manuels, il n'y a pas forcément énormément de séquences préfabriquées et pas non plus dans un contexte vraiment authentique. Et je pense que c'est important justement de les avoir là où ils sont dans le contexte authentique pour comprendre leur fonctionnement aussi. Donc, ce qu'on peut faire, donc pour résumer un peu, c'est qu'on peut sensibiliser les apprenants à la forte présence des esprits dans la langue en parlant du phénomène, donc en décrivant, mais en faisant ce type d'exercice aussi. On ne peut pas avoir l'ambition de fournir un répertoire important, mais de les faire comprendre l'existence du phénomène. On peut quand même aussi essayer de travailler avec la répétition et avec la discussion de ces séquences. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire quand même.
Alors, merci beaucoup pour toutes ces suggestions pratiques. C'est effectivement intéressant d'avoir ton point de vue et puis de savoir aussi qu'est-ce qui a été testé. Voilà. Donc, si je comprends bien, c'est pas forcément important quelles sont les séquences sur lesquelles on travaille, mais c'est vraiment plutôt la manière dont on travaille et ça va donner des compétences, en fait, aux apprenants pour la suite.
Exactement.
En fait.
Exactement. Après, si on veut, on peut bien évidemment, on peut regarder des listes de fréquences, par exemple, ou soi-même faire des recherches dans des corpus parce qu'il y a beaucoup de corpus numérisés maintenant. Et il y a aussi des outils, un outil fabuleux qui s'appelle AntConc, qui est facile à apprendre. On peut soi-même, donc dans un corpus, chercher les séquences les plus fréquentes. Donc, bien sûr, si on veut, on peut faire ça. Mais sinon, je pense qu'un bon point de départ, c'est en fait de les repérer dans des extraits assez courts, authentiques, des médias, parce que on va les repérer partout. Ils sont là.
Et pour finir, quels sont tes projets actuels et est-ce que tu travailles toujours sur le langage préfabriqué?
Je viens de terminer un gros projet qui compare l'acquisition donc, du français, langue seconde, en France, donc par des apprenants suédophones, avec des apprenants francophones en Suède. Donc, c'est une étude comparative et j'étudie donc l'impact des facteurs psychologiques et sociaux dans l'apprentissage. Et parmi les variables linguistiques, oui, le langage préfabriqué est là. C'est quelque chose que je continue à travailler. J'étudie aussi la prononciation globale. Donc, pour moi, c'est les variables linguistiques que j'examine dans ce projet. Et dans ce projet, je m'intéresse aussi aux effets de la politique linguistique, des facteurs idéologiques. Parce que entre la France et la Suède, on a des politiques linguistiques assez différentes et je pense que ça joue un rôle aussi. Je crois que mes recherches futures vont s'orienter plus sur le lien entre les politiques linguistiques et l'apprentissage de la langue. Mais je continue aussi à faire des études plutôt proprement linguistiques sur le langage préfabriqué. Par exemple, j'ai une collaboration au Canada en ce moment. On travaille avec les séquences plutôt pragmatiques, donc ce qu'on appelle en anglais « conventional sequences », donc plutôt du type « avec grand plaisir ». Et on regarde le lien avec ces séquences préfabriquées et les différents niveaux dans l'enseignement. Donc, au Canada, on parle de francisation, les cours de français pour les immigrés, les nouveaux arrivants. Et on essaye donc d'établir un répertoire pour chaque niveau donc qui est adapté pour les niveaux dans les cours de francisation. Donc, ça, c'est un projet plutôt appliqué. J'ai aussi un projet plutôt théorique où je compare différentes méthodes avec une collègue aux Pays-Bas. Et finalement, j'ai aussi un projet avec des collègues en Suisse, donc à l'université de Neuchâtel, avec Simona Pekarek-Töller. On étudie l'acquisition des séquences préfabriquées dans un corpus interactionnel. Donc la spécialité de Simona, donc l'interaction, est tracer le développement dans l'interaction des séquences préfabriquées, aussi bien de manière quantitative, qui est plutôt ma spécialité, et de manière qualitative et interactionnelle. Donc, c'est un projet pluridisciplinaire intéressant aussi qui va, j'espère, m'amener à passer plus de temps en Suisse aussi à l'avenir. Voilà. Donc, je continue avec le langage préfabriqué. C'est difficile de laisser ce thème de recherche apparemment.
Voilà. Ah, merci pour toutes ces infos et effectivement des projets à suivre et on se réjouit de te revoir en Suisse pour en parler.
Merci beaucoup.
Donc voilà, merci Fanny Foster-Dundel. Ça a été donc un plaisir de te recevoir et on te souhaite une bonne continuation pour ces recherches.
Merci beaucoup Audrey, au plaisir de vous revoir aussi.